Amen. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Merci Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne de nous rassembler dans sa présence autour de sa personne et devant la parole de Dieu. C'est une grâce que le Seigneur nous fait. Et nous en bénissons Dieu de tout notre cœur. Nous mesurons la joie et puis le privilège que nous avons de nous rassembler. Il y a tant de frères et de sœurs, de chrétiens en ce moment qui ne peuvent pas se rassembler à cause de la persécution, à cause de la maladie, à cause de toutes sortes d'obstacles. Mais nous voulons bénir le Seigneur ce matin pour l'occasion qu'il nous donne d'être ensemble dans la communion fraternelle et dans la présence de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Voilà, nous allons faire une lecture dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 4. Et au verset 1er, après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards, assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Et au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un bœuf. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant qui est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Et ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, 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 et le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, qui était et qui est et qui vient. » Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Que Dieu bénisse pour nous sa bonne et précieuse parole. » Il y a beaucoup de choses que nous venons de lire, et il faudrait beaucoup, beaucoup de temps. Je dirais presque chaque mot mérite une prédication. Chaque mot de ce passage mériterait une prédication. Ce n'est pas ce que nous avons à faire ce matin. Ce qui m'intéresse ce matin, c'est la description de ces 4 êtres vivants. Ces 4 êtres vivants, le lion, le bœuf, l'homme et l'aigle. C'est ce que Jean a vu dans cette vision que le Seigneur lui a donné de voir et qui représente, bien sûr, l'Église de Jésus-Christ sur la terre et son œuvre sur la terre. C'est ce qu'il représente pour nous, ces êtres vivants. Alors le premier être vivant dont il est question ici, on disait des êtres vivants, ils n'ont pas dit des animaux, mais on comprend que ce sont des animaux, peut-être pas tous, mais le premier être vivant, c'est un lion. C'est le lion. Et nous savons tous ce que représente le lion. Le lion est l'emblème du courage, de la force, de l'indomptabilité. rien n'est aussi fort et aussi courageux qu'un lion. Quand on parle de quelqu'un qui est courageux, on dit de lui, c'est un lion, cet homme-là, c'est une lionne, cette femme-là, elle fait face à tout. C'est exactement ce que Dieu attend. C'est pas pour rien que le lion est appelé le roi des animaux ou le roi de la jungle. Parce que dans la jungle, il y a toutes sortes d'animaux, bien sûr, hein, mais le lion les domine tous. Il n'a peur d'aucun de ces animaux, aucun de ces féroces animaux, aussi brutaux soient-ils. Et tout au long de l'histoire, et de l'histoire de l'Église en particulier, il y a toujours eu des chrétiens, des enfants de Dieu, de véritables chrétiens, de véritables enfants de Dieu, des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau et qui ont montré dans leur vie ce que c'est qu'une conversion. Ce ne sont pas des gens qui ont adopté une certaine forme de pensée. Ce ne sont pas des gens qui sont venus dans une église et qui se sont dit, ils sont gentils, ils sont braves, ces gens-là, eh bien je vais les suivre, je vais marcher comme eux. Non, ça c'est une adoption, c'est un accord, mais ce n'est pas une conversion. Mais ceux qui sont convertis, qui sont nés de nouveau, sont des hommes et des femmes qui, un jour ou l'autre, sont appelés, d'une manière ou d'une autre, à réagir comme des lions. À réagir comme des lions. Tout au long de ce jour, des chrétiens courageux, indomptables, qui n'ont jamais été domptés, des hommes et des femmes qui ont fait face à l'adversité, à la persécution, à la maladie, aux épreuves de toutes sortes, mais qui ont tenu ferme. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas cédé ? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fléchi ? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas changé leur fusil d'épaule ? Tout simplement parce qu'ils ont mesuré le prix que le Seigneur a payé pour le salut, et ils donnent au salut de leur âme la plus grande et la plus merveilleuse, le plus grand prix qu'il soit, bien sûr. Ils sont sauvés, et on n'en parle plus, ils sont sauvés. Ce sont les chrétiens courageux, indomptables, qui n'ont jamais été domptés, et ils sont allés, et il y en a encore aujourd'hui, qui sont allés, et les apôtres en premier, vous savez que les 12 apôtres sont tous morts en martyrs. Ils sont tous morts d'une manière ou d'une autre en martyrs. Et le chrétien, indomptable, courageux, semblable à un lion, peut être amené à aller jusqu'au martyr. Jusqu'au martyr. Nous avons tous entendu parler de Marie Durand. Alors, Marie Durand, prisonnière pendant 38 ans dans la tour de Constance à Aigues-Mortes, a écrit avec ses ongles un mot. Elle a gratté avec un mot sur la pierre de la tour de Constance un mot, c'est résister. Et Dieu sait, si elle n'a été en but à toutes sortes de persécutions, de tentatives, on a essayé de lui faire renier sa foi, de lui faire renier son Seigneur, de lui faire dire que c'est de la blague, que la vie chrétienne c'est de la blague, c'est un jeu, ce n'est qu'une forme de pensée, c'est une religion. Mais elle a toujours résisté, et elle a gravé de ses ongles sur la pierre, sur le rocher, ce mot résister. Résister. La parole de Dieu me dit, c'est le Seigneur qui le dit, le royaume de Dieu est forcé. Il est forcé. Et ce sont les violents, ceux qui se font violence. Non pas qui font violence aux autres, mais qui se font violence. Ce sont les violents qui s'en emparent, qui le conquièrent, qui l'occupent, qui en prennent possession. Le royaume de Dieu est forcé, on ne l'acquiert pas aussi facilement que cela. Il faut se faire violence. Il ne faut pas regarder à ses souffrances, à ses obligations familiales ou autres. faut pas regarder à cela, on regarde à ce que le Seigneur nous a proposé. Le Seigneur nous dit, il nous avertit. J'allais presque dire, le Seigneur, il est gentil de nous avertir. Mais il nous avertit, le Seigneur. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. Je vous pose une question, mais ne me répondez pas. Est-ce que vous avez eu des tribulations en ce moment, à cause de votre foi? Vous aurez des tribulations à cause de votre foi, à cause de votre appartenance au Seigneur, à cause de votre confession de foi en tant que chrétien authentique. Vous aurez des tribulations dans le monde. Le monde sera contre vous. Le monde ne vous agréera pas, parce que vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes de Dieu. Et l'apôtre Paul dit que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est par beaucoup de tribulations, bien sûr. Vous n'en êtes pas, mais il y a beaucoup de gens. Et peut-être aujourd'hui, plus que jamais, on a essayé d'en parler l'autre jour, beaucoup de gens qui recherchent un évangile facile, sans risque, sans lutte, dans lequel il n'y a pas de combat, il n'y a pas de souffrance, somme toute, un évangile à l'eau de rose. Un évangile à l'eau de rose. Donc un évangile falsifié, un faux évangile, un évangile qui n'en est pas, un évangile tronqué, duquel il manque l'essentiel, duquel il manque la croix du calvaire, duquel il manque la souffrance de Jésus, duquel il manque le prix que nous avons payé, que Jésus a d'abord payé avant nous et que nous avons à payer. Le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en apparent. Ceux qui se font violents, c'est bien un prix à payer pour être enfant de Dieu. C'est pas simple. Non, c'est pas simple. Même s'il est dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille, c'est une parole simple, mais c'est pas simple. Il faut du courage. Il faut être un lion. Il faut du courage pour se convertir. Il faut du courage pour se convertir. C'est-à-dire pour renoncer au péché qui frappe constamment à notre porte. Pour renoncer au diable. Pour renoncer à la chair et à ses plaisirs. Pour renoncer aux plaisirs du monde. Il faut du courage pour ne pas craindre les railleries, les moqueries, non pas être les objets de la part de ceux qui n'aiment pas le Seigneur, qui ne veulent pas du Seigneur, qui ne veulent pas de l'Évangile. Alors, ils se moquent de nous, ils nous raillent, ils nous traitent de tous les noms et davantage encore. Mais il faut du courage pour faire face au mépris des autres. La parole de Dieu nous dit que Jésus, le premier, celui qui est notre modèle, il n'y en a pas d'autre. Celui qui est notre exemple, il n'y en a pas d'autre. Il y en a d'autres, mais lui, c'est le meilleur, bien sûr. La parole de Dieu nous dit que pour notre salut, pour que ce matin nous soyons là présents dans sa présence et que nous louions le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, Jésus a souffert la croix. Il y a des gens qui pensent que c'était facile pour lui de mourir sur la croix. Il était Dieu, alors il pouvait mourir. Il pouvait ressusciter. Il pouvait faire ce qu'il voulait. Hein? Et que la croix du calvaire, c'était une espèce de passage obligé. Hein? Mais c'était facile pour lui. Non, la parole de Dieu nous dit que Jésus a souffert. Jésus, pour souffrir, il s'est fait homme. Et il a souffert comme un homme, non pas comme un Dieu, mais comme un homme. Non pas comme un ange, mais comme un homme. Fait de chair semblable à la nôtre, que son nom soit béni. Il s'est fait homme pour sauver des hommes. Un ange n'aurait pas sauvé des hommes. Mais Dieu fait homme à sauver des hommes, que son nom soit béni. Il a souffert la croix. L'Écriture nous dit qu'il a souffert la croix. Il a méprisé l'ignominie. C'est fort comme phrase, ça. Il a méprisé l'ignominie. Vous savez ce que c'est que l'ignominie? c'est le déshonneur total. L'ignominie, c'est le déshonneur extrême causé par un outrage public. Il a été déshonoré. Il a été déshonoré au plus haut niveau, considéré comme un vulgaire brigand, comme un vulgaire pécheur, comme un être d'aucune valeur. Et il a été méprisé. Alors lui, il a méprisé l'ignominie, il a méprisé le déshonneur pour le salut de notre âme, que son nom soit béni. Il s'est conduit comme un lion face à la croix, devant la croix, devant ses adversaires, devant ses ennemis. Il n'a pas eu honte de nous devant eux, parce que devant eux, il nous représentait. Il était à notre place. Il n'a pas eu honte de nous représenter. Que son nom soit béni. Ne me demandez pas pourquoi j'aime Jésus. Ne me demandez pas pourquoi j'aime Jésus. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et son amour n'a pas été un mot, une façon de voir les choses, une philosophie quelconque. Il a vécu jusqu'à la mort cet amour pour nous, que son nom soit béni. Le deuxième être vivant, un bœuf. Dans ma traduction, il y a marqué un agneau. Un veau. Il y a d'autres traductions qui me donnent un bœuf. Et d'autres traductions donnent aussi un autre mot, un troisième mot. Mais je préfère la traduction qui donne un bœuf. Parce qu'à mes yeux, ça compte ou ça compte pas, mais un bœuf est significatif. Un bœuf. Et le bœuf, pourquoi le bœuf? Parce que le bœuf est l'emblème du travailleur acharné, persévérant, auquel on met un joug pour tirer la charrue, pour labourer la terre, quelle qu'en soit la consistance. Il a un joug à tirer, il a une charrue à tirer, alors il tire la charrue et il n'arrête de tirer sur la charrue que quand le maître le lui ordonne. Alors il est là, tête baissée, et il tire sur la charrue pour labourer cette terre. Quelle qu'en soit la consistance, sauf d'être une terre facile, alors il tire facilement, il laboure son champ avec facilité. Soit c'est une terre plutôt dure, avec des pierres, des cailloux, soit une terre encore plus dure, où il faut vraiment forcer pour l'ouvrir, mais... Lui ne se pose pas la question de savoir ce qu'il faut faire. Le maître lui dit de tirer et il tire. Il tire avec force. Il tire avec courage. Il tire avec persévérance. Et le chrétien, par définition, et beaucoup de chrétiens l'ont fait, ont exercé beaucoup de persévérance dans la foi. Ils n'ont pas été de ceux qui ont dit « je crois aujourd'hui, mais demain, je ne sais pas ». Et hier, je ne sais pas. Mais ce sont des gens qui croient, point final. Ils croient, c'est tout. Ils ont persévéré dans la foi, dans la prière. Un jour, je vous parlerai de la persévérance dans la prière. Ils ont persévéré dans leur témoignage à leur famille, à leurs voisins de palmiers, de village ou de ville, dans l'évangélisation. Ils ont persévéré dans l'amour du prochain, tout à l'heure on nous l'a dit, dans un don spirituel, et principalement persévéré dans le témoignage de sa maison. Le Seigneur nous dit, celui qui met la main à la charrue, comme un bœuf, et que l'on attelle à la charrue, celui qui met la main à la charrue, et regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. N'est pas propre au royaume de Dieu signifie il est indigne du royaume de Dieu. Il fait tâche dans le royaume de Dieu. Il ne convient pas au royaume de Dieu. Donc il n'appartient pas au royaume de Dieu puisqu'il regarde en arrière. Il y a des choses qu'il a vécues. Peut-être les regarde-t-il parce que elles lui rappellent ces choses qu'il a vécues, comme vous connaissez Madame Blotte? Vous ne me connaissez pas Madame Blotte? Ah bon? À Sodome et Gomorre, la femme de Lotte. Je l'ai appelée Madame Lotte parce que je n'avais pas trouvé un autre nom. Mais j'appelle Madame Lotte. Oh, Madame Lotte, à Sodome et à Gomorre, je ne sais pas si à Sodome ou à Gomorre, ou dans les deux, avait une vie fastueuse, une vie de riche, et il ne lui manquait rien. Il avait de grands arbres, de petits arbres, il avait un gros chien et un petit chat, ou peut-être l'inverse, un gros chat et un petit chien. Il avait tout dans la maison, elle était heureuse. Oui, mais un bonheur mortel. Et vous savez qu'il y a des gens qui vivent des bonheurs mortels. Comme Ève. Ève était contente, elle était heureuse. Elle avait tout à portée de la main. Elle n'avait qu'à lever la main comme ça et prendre un fruit et le manger. Elle n'avait pas besoin de travailler et Adam non plus. Alors les fruits, mais ils étaient beaux à voir. Certainement agréables à manger. Certainement capable de donner de l'intelligence. Alors elle était tout. Mais tous ses bonheurs étaient mortels parce que le jour où elle en a mangé, elle en est morte. Le Seigneur l'a rejetée du jardin d'Éden, ainsi que son mari Adam. Celui qui met la main à la charrue regarde en arrière est indigne du royaume de Dieu. Celui qui regarde avec regret les années passées avant sa conversion, tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a expérimenté, tout ce qu'il a connu dans le monde, et il regrette en disant que j'étais bien. C'est comme les Juifs qui regrettaient l'Égypte et qui disaient qu'on était bien, on avait à manger tous les jours, etc. On nous donnait des légumes, mais ils ont oublié les coups de bâton qu'ils recevaient tous les jours aussi. Hein. Ils oubliaient ça. Celui qui met la main à la charrue, regarde en arrière, est indigne, n'est pas propre, ne convient pas. Il est sale, c'est une tâche. Comme je le disais tout à l'heure, toutes les terres que le bœuf est appelé à labourer, elles n'ont pas toutes la même consistance. Elles sont toutes différentes les unes des autres. Par exemple, chez moi, à Saint-Maximin, j'ai une terre épouvantable. Rien ne pousse. J'ai fait venir un camion de terre pour combler, et j'ai planté des salades, des tomates, tout ça est entré en terre et les pierres ont monté. J'ai cultivé les pierres. J'ai cultivé des pierres et rien d'autre. Rien n'a jamais poussé parce que c'est une terre qui ne convient pas à la culture. Peut-être de la vigne, mais je ne m'y suis pas essayé. Toutes les terres n'ont pas la même consistance. Et il ne faut pas non plus s'arrêter à la longueur du sillon que l'on est appelé à tracer. Le Seigneur m'a fait la grâce et il m'a demandé de travailler dans diverses régions de France et de Suisse. Et je n'ai jamais trouvé aucune église et aucun chrétien, que ce fût dans le sud-ouest, que ce fût en Suisse, que ce fût dans le sud-est. J'ai travaillé dans la région de Nice, à Beausoleil, aussi en Corse, etc. Jamais personne, vous m'entendez? Jamais personne ne m'a jamais dit « Ici, c'est facile. » Partout, on m'a dit « C'est difficile, c'est difficile. Les gens sont durs. » Oui, les gens sont durs. On ne m'a jamais dit, peut-être vous, on vous l'a dit, mais moi, on ne m'a jamais dit « Le diable est en congé. » On ne m'a jamais dit « Le diable est à la retraite, il est vieux. » Alors, il a pris sa retraite. Jamais on ne m'a dit ça. Mais on m'a dit « Ici, c'est difficile. » Le terrain est difficile. Labourer cette terre est difficile. Il y a beaucoup de rochers, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de problèmes, bien sûr. Mais l'apôtre Paul le savait. Et il a pu dire à la fin de sa vie, « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Et les hommes de David, il est dit d'eux qu'ils ont marché, ils ont marché, ils étaient fatigués, mais ils poursuivaient toujours à marcher. Ce n'est pas évident, frères et sœurs. Et je ne voudrais pas avoir l'impression de vous décourager. Je voudrais plutôt vous encourager à tenir ferme malgré l'opposition, malgré la difficulté, malgré la maladie. Vous savez que ma femme est dans un piteux état. Ma femme, elle est au plus bas. Rien ne bouge chez elle. Aucun bras, aucune main, rien ne bouge. Elle est totalement paralysée et même en ce moment, depuis quelques temps, elle se paralyse la bouche. Elle a toutes les peines du monde à s'exprimer, à dire un mot convenablement. Hein? Mais quand on lui parle du Seigneur, elle sourit. Hein? Tous les dimanches, elle regarde, ou du moins, elle écoute un message à la télé, à Internet du moins, et quand on lui parle, elle sourit. Elle est heureuse dans le Seigneur, malgré son état physique épouvantable. Elle souffre de ne pas pouvoir s'exprimer, et les autres, non seulement moi et la famille, mais ceux qui viennent nous aider sur le plan matériel, ont aussi de la peine à la comprendre. Mais peu importe. De toute façon, le Seigneur est là, et nous ne sommes que de passage, quel que soit la dureté du chemin, quelle que soit l'épreuve, nous sommes là, et le Seigneur aussi. J'en viens maintenant au troisième être vivant. Il est dit que c'était un homme, enfin il avait l'apparence d'un homme. Or l'homme, par définition me semble-t-il, est l'emblème de l'intelligence. Cela nous parle du travail accompli avec intelligence, avec sagesse. Ce sont deux choses différentes, mais avec intelligence. Je crois que par définition, un chrétien doit être intelligent. Oh, quel silence! Dans la parole de Dieu, dans l'Évangile de Saint-Marc, il dit « Et il y eut un grand silence ». C'est ce qui se passe. Mais je crois que le chrétien doit être intelligent. C'est vrai que l'apôtre Paul, écrivant aux Corinthiens, leur dit « Il n'y a pas parmi vous beaucoup de sages selon le monde. » Pas beaucoup d'intelligents selon le monde, selon les critères de ce monde, selon la conception des choses de ce monde. Moi, je l'accepte. Hein. J'accepte qu'on me dise que je ne suis pas intelligent, ce n'est pas important. Mais aux yeux de Dieu, il y a beaucoup de chrétiens qui ont travaillé pour le Seigneur avec intelligence, avec sagesse, pour diriger leur vie, pour diriger leur foyer, leur famille, leurs enfants, et pour être un bon témoignage au milieu des leurs, au milieu de l'Église et au milieu des autres. Ils ont été intelligents. La parole de Dieu nous en parle. Et dans Éphésiens 5, 15, il est écrit, dans ma Bible en tout cas, « Conduisez-vous avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Conduisez-vous avec circonspection. » Ça veut dire « Conduisez-vous comme si vous marchiez sur des œufs. » Pas des œufs durs, hein. Ce serait trop facile. Conduisez-vous comme si vous marchiez sur des œufs, sans en casser aucun, avec une circonspection, c'est-à-dire avec beaucoup de prudence. Parce qu'on ne sait pas toujours où on met les pieds. Parce qu'on ne sait pas toujours à qui on parle. Parce qu'on ne sait pas toujours comment on va nous répondre. Il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche afin de parler de choses précieuses, des perles que nous avons, des choses précieuses. Ne donnez pas vos perles aux chiens, les choses saintes aux chiens. Conduisez-vous avec circonspection, non comme des insensés, c'est-à-dire comme des taureaux qui fonce sur tout ce qui bouge. Mais conduisez-vous avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Et puis l'apôtre Paul, écrivant aux Romains, leur dit aussi, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a deux choses dans cette phrase. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. La première chose, c'est soyez transformés. Avons-nous besoin d'être transformés? Avons-nous besoin d'être meilleurs? C'est ce que l'apôtre Paul dit, que la volonté de Dieu est que nous soyons meilleurs et non pas pires. Nous avons besoin d'être transformés, d'être meilleurs, autrement dit plus efficaces, plus heureux dans notre vie chrétienne, plus heureux dans notre témoignage, que nous soyons meilleurs. Est-ce que je suis meilleur qu'hier et moins bon que demain? Parce que demain, je serai meilleur qu'aujourd'hui. Alléluia! Soyez transformés. Et comment? Par le renouvellement de votre intelligence. Ah! Autrement dit, il faut que notre intelligence grandisse. Qu'elle soit renouvelée. Que nous soyons de plus en plus intelligents. Je n'ai pas dit que nous soyons de plus en plus savants. Parce que quand je dis certaines choses à certaines personnes, elles disent « Ah ben, je suis plus intelligent qu'hier. » Je dis « Non, c'est pas vrai. Tu n'es pas plus intelligent qu'hier parce que tu viens d'apprendre quelque chose. Tu es plus savant, mais tu n'es pas plus intelligent. Peut-être plus aussi bête qu'hier, mais tu es plus savant. Tu en sais un peu plus. Mais ce que Dieu désire, c'est que nous ayons un peu plus de connaissances, bien sûr, mais que nous soyons plus intelligents, autrement dit que notre cœur, qui est le centre de notre intelligence, eh bien, reçoive mieux les choses de Dieu. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a des gens qui disent, oh, la volonté de Dieu, qui peut la connaître? Toi, tu peux la connaître. Moi, je peux la connaître. La volonté de Dieu, d'abord je sais qu'elle est bonne, agréable et parfaite. Ça je le sais. Vous le savez? Amen. Oh! Amen. La volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Amen. Bon. Est-ce que je peux la connaître? Oui, je peux la connaître. Je peux la connaître pour moi. Hein? Et quand il y a quelque chose qui se passe dans mon cœur et Dieu se met à l'aise, c'est que je ne suis pas dans le plan de Dieu. Si je suis mal à l'aise, c'est que je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Mais quand je suis heureux en moi-même, après la décision que j'ai prise, eh bien, je suis dans la volonté de Dieu, bien sûr. D'ailleurs, l'apôtre Paul, écrivant à Timothée et à chacun de nous, si nous acceptons que ce qui est dit à Timothée nous concerne aussi, alors nous sommes dans la volonté de Dieu. L'apôtre Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 2,7, « Comprends ce que je te dis. » Car Dieu te donnera de l'intelligence. Ah! Voilà le secret. Comprends ce que je te dis, car Dieu te donnera de l'intelligence. Si tu cherches l'intelligence, Dieu te la donnera. Tu seras plus intelligent. Et le psalmiste, un peu ironique, nous dit, ne soyez pas comme des mulets sans intelligence. Et le psaume 119, 144 me dit, c'est une prière, donne-moi l'intelligence pour que je vive. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. L'œuvre de Dieu, que ce soit l'Église, dans notre vie, dans l'Église et partout ailleurs où elle est, doit être considérée comme importante, très importante, pour ne pas la considérer avec désinvolture. L'œuvre de Dieu ne doit pas être considérée comme avec désinvolture, mais avec sérieux, avec intelligence, avec sagesse. Elle est comme la prunelle des ailes du Seigneur. Et enfin, le quatrième aigle, être vivant, c'est l'aigle. Cet oiseau est l'emblème de la puissance dans le vol. Il est l'oiseau qui se déplace le plus vite et qui vole le plus haut et qui voit de très loin. Il voit de très loin. Il est puissant, il est rapide, il a une très bonne acuité visuelle. Autrement dit, pour nos chrétiens, pour la vie chrétienne, pour la vie spirituelle, l'aigle nous parle de la promptitude, du zèle et de la ferveur, de la promptitude, être prompt, agir à faire quelque chose pour Dieu, ne pas attendre, mais s'il y a quelque chose à faire, il faut le faire, il faut prompt à agir pour le Seigneur. Quelquefois, il y a des choses qui me chicanent un petit peu. Si dans l'église, je vois un chiffon ou un bout de papier par terre, je le ramasse. Même si ce n'est pas moi qui l'ai fait tomber, je le ramasse. Parce qu'il doit être ramassé, pourquoi attendrais-je qu'un autre le fasse? Je le fais moi, si je peux. L'impromptitude. Paul écrivant aux Romains leur dit, Romains 12, 11, « Ayez du zèle, non de la paresse, soyez fervents d'esprit. » Ayez du zèle pour Dieu, ayez du zèle pour l'Église, ayez du zèle pour l'évangélisation, ayez du zèle pour l'œuvre de Dieu, quelle qu'elle soit d'ordre matériel. Et je sais qu'ici ça se fait, ou que ce soit sur le plan spirituel, en distribuant des prospectus, en rendant témoignage, en aidant l'œuvre de Dieu dans quelque domaine que ce soit, ayez du zèle, non de la paresse, soyez fervents d'esprit. Que votre esprit travaille, que votre esprit soit à l'œuvre et qu'il ne soit pas paresseux, bien sûr. Et le psalmiste, dans le psaume 69, verset 10, il va très loin. Et cela nous rappelle la personne de Jésus quand il vivait au milieu de son peuple. Sa parole le concerne et doit nous concerner. Le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Je ne parle pas des murs. Je parle du peuple de Dieu, la maison de Dieu, c'est nous. Le zèle de ta maison me dévore. Si comme l'aigle nous avons une bonne acuité visuelle, si nous nous y voyons bien, spirituellement parlant, nous savons ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Parce que nous voyons clair, nous voyons ce qu'il y a besoin de faire. Alors nous nous précipitons pour le faire. Nous avons du zèle, nous avons de la ferveur pour le zèle parce que c'est à faire. C'est à faire. Je vous parlais tout à l'heure du bout de papier par terre. Pourquoi ce serait l'autre qui le ramasserait? Pourquoi est-ce que je ne le ramasserais pas moi? S'il y a une tache par terre, je vais la nettoyer. Pourquoi ce serait un autre qui le ferait? Pourquoi pas moi? Je dois le faire. S'il y a un problème quelconque, je vais essayer de le résoudre. Pourquoi attendre qu'un autre le fasse? C'est trop facile de laisser aux autres le travail que je peux faire moi. Et du zèle et non de la paresse. Notre zèle, quand il existe, est déterminé par l'idée que l'on a de l'importance de l'œuvre de Dieu. C'est important, l'œuvre de Dieu. Déterminé par l'importance que l'on a de l'œuvre de Dieu, d'une part, mais aussi, ce zèle est déterminé par l'idée que l'on a de l'importance du ciel et de l'enfer. Du ciel et de l'enfer. Mon père, j'étais en Saône-et-Loire, Je me suis converti en 1960. Je n'y suis plus retourné et j'étais dans une maison chrétienne qui s'appelait encore La Porte Ouverte. Et mon père m'a cherché, est venu. À ce moment-là, je n'étais pas à La Porte Ouverte elle-même, mais j'étais dans un chantier que je faisais pour La Porte Ouverte. Et il a réussi à venir jusque-là, entre La Porte Ouverte. Moi, j'étais à Nevers à l'époque, dans une maison que je bricolais. Et il est venu entre les deux, dans une ville dont je ne me souviens plus le nom, pour me ramener en Algérie, à Alger, chez moi. Il m'a dit, tu viens, j'ai de l'argent, tout va bien, etc. Mais je savais ce qui m'attendait. J'allais y perdre la tête, physiquement. Je savais, parce que mon frère avait juré de me réduire d'une tête, de m'égorger. Mais j'avais une trop haute idée de ce qu'est le ciel et de ce qu'est l'enfer. Et je ne voulais pour rien au monde renier ma foi, renier le Seigneur, prendre le risque d'être, sacrifié pour rien. Non, j'ai laissé mon pauvre père et je suis parti. Notre zèle, quand il existe, est déterminé par l'idée que l'on a de l'importance du ciel et de l'enfer. Je dis toujours dans l'évangélisation, dans une réunion d'évangélisation, si on entrebâillait à peine entrebâillait deux portes, la porte du ciel à peine ouverte, à peine entrebâillée, et la porte de l'enfer, hein, si on voyait à peine un petit peu ce qu'est un peu le ciel et un peu la terre, croyez-vous qu'on hésiterait, on aurait tout de suite une idée de ce qu'est l'enfer et de ce qu'est, même si on ne faisait qu'entrevoir. Tout de suite, on aurait une juste idée, une idée éclatante et définitive de ce qu'est le ciel et de ce qu'est l'enfer. Ces quatre vivants, et ce sera ma conclusion, sont l'empreinte des chrétiens consacrés. Le lion, le bœuf, l'aigle, l'homme intelligent, des chrétiens consacrés, des chrétiens qui ne le sont pas que de nom mais de réalité, bien sûr. Et je dirais que Jean a vu dans le ciel ce que nous devons être sur la terre. Il a vu des êtres vivants, mais nous aussi nous sommes des êtres vivants. Et il ne cessait de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Tout-Puissant, que son nom soit béni. C'est notre privilège, c'est notre joie, c'est notre force, c'est notre bonheur de dire cela, Saint, Saint, Saint et l'Éternel. C'est notre privilège, c'est notre joie de le dire de tout notre cœur, Saint et l'Éternel, que son nom soit béni. Seigneur, nous voulons bénir et louer ton nom de tout notre cœur. Seigneur, merci de nous avoir attirés à toi, d'avoir fait ton œuvre dans notre cœur. Je sais qu'il y a encore des choses à faire, que nous avons des progrès à faire, que j'ai des progrès à faire dans tous les domaines. Mais jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et si nous sommes debout, c'est par ta grâce. Si nous sommes debout, c'est parce que tu nous as tenus debout. Malgré nos hésitations, Seigneur, tu nous as tenus par la main, tu as tenu notre cœur, tu nous as tenus dans la foi, et nous t'en bénissons, Seigneur, de tout notre cœur. Seigneur, ce que nous voulons et ce que nous croyons, c'est que nous irons plus loin avec toi, et nous voulons aller plus loin avec toi. Nous voulons grandir dans la foi, nous voulons grandir dans le zèle, nous voulons grandir dans l'évangélisation, nous voulons être meilleurs que nous ne l'avons jamais été. Seigneur, tu nous as aidés jusqu'à ce jour, et tu nous aideras encore, et nous te disons d'avance, merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.